Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Cet épisode de Nos Ciné vous est proposé en partenariat avec Séance Radio, la radio 100% cinéma, et c'est une production Binge Audio.
Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui peine souvent à être convaincu par la musique sur grand écran. Non pas la musique de film, entendons-nous bien, ça c'est régulièrement un régal. Non, ce qui parfois nous gêne, c'est lorsqu'on tente de porter au cinéma la vie et l'œuvre de musiciens ou de groupes importants. Certes, des contre-exemples, il y en a, mais pour un walk the line tout à fait réjouissant, combien de biopics fades, hagiographiques, à la limite de la parodie, voire totalement embarrassants. C'est donc armé de toutes ces réticences et de ce lourd passif que nous avons abordé Bohemian Rhapsody, l'inévitable récit du parcours de Queen et de son charismatique leader à moustache Freddie Mercury, dont nous allons causer la tout de suite avec un quatuor de performeurs à la dentition remarquable réunis ici à l'Antenne Paris. Lélo, Jimmy, Baptiste, salut Jimmy. Anaïs Bordage, salut Anaïs.
Salut.
Stéphane Moïsakis, salut Stéphane.
Salut Thomas.
J'ai failli buter sur ton nom. Ouais. Tu te rends compte, c'est la honte. Perrine Kenson, salut Perrine.
Salut Thomas.
C'est Nos Ciné, épisode 157 et c'est parti.
Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
Alors, on va sans doute en reparler, mais difficile de ne pas mentionner d'emblée que le film est certes signé Bryan Singer, qu'on ne présente plus vraiment, mais que ce dernier a été viré en cours de tournage alors que les deux tiers du film environ étaient bouclés, qu'il a été remplacé par Dexter Fletcher derrière la caméra, même si donc pour des raisons de droit, la guilde des réalisateurs américains a imposé que seul le nom de Singer apparaisse. Bref, le film, lui, nous raconte, on l'a dit, le parcours du groupe britannique Queen et de son emblématique chanteur Freddie Mercury, incarné ici par Rami Malek, qu'on avait découvert dans la série Mr. Robot. Mercury ayant donc mené de 70 jusqu'à son décès en 91 le groupe vers une gloire internationale grâce notamment à une poignée de tubes dont le plus fameux donne son nom au film. Et outre Malek, au casting, on trouve également Lucy Boynton, Gwimlim Lee, Ben Hardy, Joseph Mazzello, je ne sais pas qui sont ces gens, ou encore Aidan Gillen de Game of Thrones et The Wire, lui je le connais, ça va. Votre avis sur ce Bohemian Rhapsody, les amis? Jimmy, tiens, tu vas commencer.
Déjà, comme tu disais, effectivement, un biopic musique, enfin rock même en l'occurrence, ouais. C'est toujours un problème.
C'est souvent gênant.
Parce qu'il y a plus de cas, enfin, on serait plus facile de numérer les cas qui sont réussis, qui sont très peu nombreux. Oui. Mais là, celui-là, il y a vraiment, c'est un autre type de film à problème, c'est qu'il y a trois couches.
Ah.
C'est-à-dire que dès que t'en perds une, il y en a encore une autre en dessous, quoi. Là, la première, en fait, elle est assez simple et assez attendue, on va dire. C'est que, en plus, elle est illustrée par une des scènes. Il y a une scène où, en fait, les membres de Queen s'engueulent avec le patron, le représentant de leur label, EMI, et à propos de Bohemian Rhapsody, justement. Parce qu'ils veulent le sortir en single, le type refuse parce que le titre est trop long et trop bizarre.
6 minutes.
Voilà. Et en gros, ce qui se passe, c'est que lui, il dit, moi, ce que je veux, c'est une force. On s'en tient la formule, 3 minutes. Et Freddie Mercury lui répond, mais les formules, c'est dépassé. Et là, il y a quand même un certain aplomb de sortir un truc pareil dans un film qui est genre une formule de A à Z, mais à un tel point que c'est carrément un robinet à clichés du début à la fin. Enfin, pour moi, c'est vraiment le biopic rock expliqué aux caniches, quoi. On ne peut pas faire pire, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment, il y a tous les trucs du genre, quoi, tous empilés les uns sur les autres. Et puis surtout, le vrai souci, c'est que ça suit l'itinéraire d'un groupe, donc Queen, qui a vraiment pas une histoire très intéressante. C'est-à-dire, ouais. Le vrai point intéressant, c'est Freddie Mercury, je vais revenir dessus. Mais en fait, c'est un groupe. En plus, comme elle est présentée là, c'est vraiment mode Wikipédia. C'est-à-dire, chaque événement se suit les uns après les autres. Il n'y a jamais de problème, en fait. C'est-à-dire que dès qu'il y a un problème, c'est résolu en 2 secondes. Et le summum est atteint vraiment sur la fin, quand ça se termine en 85, donc avec le Live Aid, le concert, ouais, du Live Aid. Et en gros, la même journée, Freddie Mercury réussit quand même à retrouver le type dont il est amoureux et qu'il a cherché pendant des années, à se réconcilier avec ses parents et à faire le plus gros concert de sa carrière, enfin un des plus gros à ce stade-là en tout cas. Enfin tout ça comme ça, quoi. Voilà, on se lève le matin, tout
fort.
Va bien, quoi.
C'est une belle journée.
Voilà, une petite journée, quoi. Et donc voilà, mais après tu te dis, bon, encore, on s'arrête à ça. Ah, les dialogues aussi. Je ne vais pas revenir trop dessus, mais vraiment, les dialogues, on dirait qu'ils ont été écrits par Paulo Coelho. Quoi. C'est incroyable. C'est que des trucs à la demain et le premier jour du reste de ta vie, des trucs, des espèces de maximes de motivation. Et en fait, ça encore, on va dire, bon, bah, on s'en arrêterait là. Ce serait un des nanars de l'année, le troisième derrière Fleuve Noir et Star is Born. Et
wow. Ça dénonce, hein.
Vache, direct, oui. Ça dénonce.
Ah non, Star is Born, il y a un truc, quoi. Bref, mais après, bam, on arrive sur la deuxième couche de mer, j'ai envie de dire, où vraiment, là, en gros, le problème, c'est Freddie Mercury. C'est-à-dire qu'en gros, au lieu de le film aurait dû se focaliser vraiment beaucoup plus sur lui, sur ses zones un peu sous zone d'ombre, parce que c'est quand même un personnage assez à la fois charismatique, mais aussi un peu paradoxal. C'est-à-dire que c'est quand même un gars qui a une confiance en lui qui est incroyable. Enfin, il arrive à tenir un stade dans le creux de sa main, et en même temps, il sait pas trop qui il est, où il va, ce qu'il veut faire. Donc, il y a un peu un truc intéressant à voir là-dessus. On s'en sert pas vraiment, quoi. C'est vraiment on suit le groupe, comme je disais tout à l'heure, voilà, événement après événement. Et le seul les seuls trucs qui se montrent, sa sexualité évoquée, mais finalement pas tant que ça, enfin très 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 sommairement. Et le sida, c'est utilisé comme une espèce de gadget narratif, puisqu'en fait le film s'arrête en 85, il a fait son premier test en 86, il a été diagnostiqué en 87. Donc en gros, ce qui se passe dans le film, ça n'est jamais arrivé. Ouais. Et donc c'est utilisé pour juste donner au concert du Live Aid une espèce de pour le monter en meringue, quoi. Ouais. Voilà. Et le troisième problème, qui est pour moi le plus important, c'est que c'est pas un film, quoi. Enfin, c'est une pub, une espèce de pantomime, un truc de théâtre, je sais pas, mais il y a très peu d'idées de mise en scène, je trouve. On sent pas qu'il y a un réal, on a l'impression que c'est une équipe de pubard. On sent qu'il y a une équipe de pubard, et on en parlait juste avant l'émission avec Stéphane, mais effectivement, moi je suis pas extrêmement fan de Queen, mais j'apprécie quand même, puis en plus j'ai grandi dans les années 80, donc forcément j'apprécie par défaut. Mais le truc, c'est que à aucun moment on a l'impression de voir un concert, de voir ce groupe. Enfin, on pourrait avoir au moins un petit frisson de temps en temps, mais effectivement, il y a rien du tout.
À part le frisson de la.
Le frisson de la honte, non, il est là. Le frisson de la honte, il est là. Il est très présent. Voilà. Donc oui, voilà. Bohemian Rhapsody, n'allez pas le voir.
Un caniche. Éventuellement. Anaïs.
Ou alors, attendez qu'il sorte en streaming, parce que je pense qu'il a quand même le potentiel de devenir un peu un objet culte dont on peut se moquer, quoi. Parce que comme tu disais, c'est quasi parodique. Donc en fait, le film, lui, se prend très au sérieux, mais en vrai, on pourrait complètement le regarder pour s'en moquer. Moi, j'aurais dit, même plus qu'une pub, c'est vraiment un medley, c'est-à-dire que ils sont hyper contents parce qu'ils ont les droits des chansons, et du coup ils enchaînent toutes les chansons de Queen, mais c'est hyper cut. On sent effectivement que plusieurs réalisateurs sont passés dessus, et du coup il n'y a aucun moment de respiration, toutes les scènes sont vraiment enchaînées, c'est hyper haché. Et en fait, on prend jamais le temps de vraiment se poser avec eux, de comprendre comment ils ont écrit ces chansons, comment ils les ont composées. C'est juste... c'est hyper caricatural. On a un moment, ils sont en train de se disputer, et puis là, ah, super, j'ai une super idée. Et en fait, et paf, ça fait We Will Rock You, quoi. Et en fait, c'est pour toutes les chansons, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont un peu, ça leur sort comme par magie, de nulle part. Ils sont à la campagne, et puis tout d'un coup, il a Bohemian Rhapsody qui lui vient comme ça. Et deux secondes après, Bohemian Rhapsody devient la plus grande chanson de tous les temps.
Ça, c'est génial, parce que je crois que c'est le premier biopic que j'ai vu où il essaie de montrer l'inspiration en film. Et c'est complètement nul.
Et c'est hyper raté. Quoi. Et alors vraiment, comme tu disais, il n'y a aucun choix de mise en scène. Et ce qui est horrible, c'est qu'au lieu de nous montrer... Je trouve que Rami Malek, dans les scènes de concert, s'en sort plutôt bien. Il a pas mal de charisme. Et au lieu de nous faire une belle scène de concert, on a plusieurs fois où, en fait, pendant les chansons, on nous montre des espèces de montages affreux. Où, donc, par exemple, pour Bohemian Rhapsody, on nous montre tous les titres d'articles qui sont sortis à l'époque pour dire que la chanson était mauvaise, au lieu de nous montrer le groupe en train d'interpréter cette chanson qui a donné le titre du film, quoi. C'est quand même fou. On a un autre moment où ils nous font une succession de toutes les villes dans lesquelles ils ont fait des concerts. On a les noms des villes qui apparaissent à l'écran au lieu de nous montrer les concerts. Enfin, c'est hallucinant, c'est hyper pauvre en fait en termes de mise en scène. Et après, c'est regardable, quoi, parce que tous les plans sont quand même assez jolis. Enfin, on sent qu'il y a de l'argent qui a été mis dedans, quoi. Les costumes sont jolis, les décors sont jolis, mais il n'y a aucun plan qui reste en fait. Il n'y a rien de mémorable, quoi. Et puis, le problème, c'est aussi que Rami Malek, en dehors des scènes de concert, il a quand même ses fausses dents qui l'empêchent de parler, quoi. C'est-à-dire qu'il ne peut pas, enchaîner trois mots sans baver et sans se retenir de baver. Et même ça, en fait, vous pouviez juste le faire jouer Freddie Mercury sans lui mettre des fausses dents. Ça va, c'est un film. On est au courant qu'il ne va pas lui ressembler à 100%. C'est horrible, quoi. Tout est comme ça. C'est vraiment... ça frôle la parodie, mais c'est terrible parce que ça n'en est pas une, quoi.
Stéphane, Souris sur les fausses dents.
Parce que c'est vrai, mais parce que c'est un truc en fait. Parce que c'est un truc où moi je suis pas forcément un énorme fan de Queen ou quoi. J'aime bien, mais.
Tous vu des t-shirts.
Non. Mais j'aime bien. J'aime bien certaines chansons. J'aime bien. Il y a pas de souci. Mais j'avais jamais vraiment fait attention en fait qu'il avait des dents comme ça, Freddie Mercury. Du coup. En regardant le truc, je me suis dit, mais ils exagèrent quand même. Alors, je suis allé regarder les vraies images du vrai Freddie Mercury et j'ai fait, ouais, bon, c'est vrai qu'il a un petit peu des dents.
Mais pas
à ce point-là. Le problème, après, moi, le problème, ce que j'ai avec le film, c'est que c'est un film de Bryan Singer, finalement, vraiment, parce que le truc, c'est que, encéphalogramme plat. C'est-à-dire que littéralement, comme quasiment tout ce qu'il a fait en fait dans sa vie, dans sa carrière, la plupart des films, en fait, ceux qui fonctionnent à peu près, c'est ceux qui sont plus ou moins bien écrits. Donc c'est presque malgré lui, quoi. Et il y en a pas beaucoup. Hein. Moi, j'aime bien le premier X-Men en termes d'écriture, mais par exemple, si tu veux. C'est un film qui n'est pas du tout emporté. Normalement, le climax, et surtout à l'époque où c'est sorti, ça aurait dû être incroyable. En fait, c'est des super-héros qui se battent sur la Statue de la Liberté. Ça aurait dû être fou, quoi. La menace, elle aurait dû être dingue. Dans le 2, je crois, il y a carrément deux fois la fin du monde. Tu vois, oui. Et tu ressens jamais rien. Et là, c'est exactement pareil. Ce qu'on se disait donc avec Jimmy avant, c'est que le concert de Live Aid à la fin, normalement, en fait, c'est surtout les chansons qu'ils jouent, ça devrait être un petit peu titiller les couilles, quoi. Tu vois, quelque chose, tu vois, ça devrait te titiller, tu devrais te dire, putain, il est en train de soulever un milliard de spectateurs, en gros, quoi, tu vois, par son talent, quoi. Et jamais, t'as effectivement les plans de Luma, les plans de machin, et attention, il y a full infographique, et tout ça, etc., etc. Tu penses que le mec se lâcherait? Voilà. Donc le problème, c'est qu'encéphalogramme plat, parce que je trouve même pas ça vraiment ridicule ou je trouve ça juste. Bah, il y a peut-être trois moments ridicules, effectivement, trois quatre moments. Et effectivement, ce moment où il découvre les chansons comme ça, où tu te dis ah ouais, d'accord. Mais comme tout le film, effectivement, comme disait Anaïs, ça fonctionne littéralement en saccade en fait. Alors il y a cette scène, il faut qu'on aille, on passe à la scène suivante, ensuite on passe à la scène suivante. Et bam 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 bam. C'est même pas une question en fait de pas mettre les infos dans l'ordre. Tu vois, moi je comprends que les mecs ils aient fait une entorse à la réalité.
Ah, mais c'est parce qu'ils étaient obligés parce qu'ils se seraient fait attaquer de toute façon sur le fait que. Ils n'en ont pas parlé. Enfin, c'est déjà sur Twitter, tout le monde s'excite là-dessus, alors que les gens n'ont pas vu le film. Donc, voilà. Je comprends qu'il l'ait fait, hein, l'entorse, mais c'est juste qu'elle est très artificielle. Quoi.
Après, le truc, c'est que moi, je me pose la question de à quel point aussi ce film, en fait, c'est pas aussi quelque part l'histoire du coming out de Bryan Singer, en fait, dans l'absolu aussi, puisque c'est un réalisateur homosexuel. Enfin, il le revendique, il a fait son coming out depuis longtemps. Et en fait, effectivement, c'est des clichés, tu vois, la façon dont c'est présenté. En tout cas, moi, j'ai plusieurs histoires sur ce sujet-là. À chaque fois, ça ressort de cette manière-là. Mais c'est limite le truc le plus habité du film, en fait. Ces moments où lui se pose des questions. Parce que, pour le coup, ça prend au moins trois quarts d'heure avant d'être vraiment traité. Alors que c'est traité en filigrane à droite à gauche, si tu veux, comme quoi, il regarde des mecs de travers, les mecs lui sourient dans un relais routier. Enfin, c'est des clichés, quoi. Mais le truc, c'est que c'est des trucs que t'as vu dans plein de films, quoi. Mais et du coup, t'as tous ces trucs là où tu te dis c'est pas fin, hein. Mais c'est émaillé, contrairement au reste du film, quoi. Donc du coup, j'ai l'impression que c'était peut-être le point d'ancrage de Singer. Lui, il est revenu, il faut aussi préciser ça, il est revenu sur le montage du film. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, Dexter Fletcher, il a tourné 16 jours, je crois. Et après, en fait, il a fait jouer en fait, son pouvoir, Bryan Singer, il a récupéré le montage du film. C'est censé être son... C'est pour ça qu'il le signe aussi, c'est censé être son film, à la base. Il y a 16 jours où il s'est fait porter pâle, quoi. Mais le truc, c'est que...
Mais il n'est pas revenu après Thanksgiving.
Voilà, c'est
et
ça.
Il s'est fait virer.
Voilà. Mais voilà, donc pour moi, le film, il est symptomatique de par exemple, des problèmes qu'on a dans Valkyrie, des problèmes qu'on a dans tous ces films-là, en fait, où un élève doué, où c'est vraiment, en fait, tu te dis, mais avec ces sujets-là, ça devrait être des films de dingue. Vraiment des films de dingue. Alors, peut-être pas Bohemian Rhapsody, mais en tout cas, ça aurait pu être un peu sympa à suivre, un peu enlevé, puis il y avait moyen de faire des vraies scènes de cinéma. Et comme d'hab, avec Singer, c'est des films, quoi. Voilà.
Périne.
Je vais revenir un petit peu sur ce que vous avez dit. Je suis tout à fait d'accord sur le côté enchaînement de scènes. Moi, quand je suis sortie, je me dis c'est un film bullet point. C'est-à-dire que clairement, il a fallu parler de tous les passages obligés. Mmh. Et tous ces passages obligés sont entre-temps des moments qui, pour le moment, moi, je trouve qu'il y a quelques moments, parfois, de temps en temps, une scène, une séquence, un truc, où tu te dis ah putain, c'était ça. Vous l'aviez le sujet du film. Vous l'aviez la solitude de Mercury, ses doutes. Le film n'a pas d'angle. À aucun moment, le film n'a un angle. À aucun moment, il essaye de me raconter quelque chose sur Freddie Mercury. Il est juste un espèce de Freddie Mercury, il a pris la drogue. Freddie Mercury, il était queer. Il est carrément allé hyper queer quand il était à Berlin. Enfin, ils ont... Et il y a un truc, si je dis pas de bêtises, le film a été approuvé par les autres membres de Queer.
Produits, chapeautés, ils étaient sur le plateau.
Je trouve que c'est très problématique et que ça se sent. C'est-à-dire que non seulement personne n'existe dans ce film en dehors de Freddie Mercury, et résultat, dès qu'on voit les membres du groupe, c'est des gars sympas, quoi. Ils sont sympas. Tout le long, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont rien qui dépasse, à aucun moment. Donc pour un biopic sur un groupe de rock, c'est quand même d'une sagesse, c'est gentil, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a personne... Ouais, Grand Max, il y a le batteur, il est un petit peu volage, quoi. Wouh, folie de la vie, quoi. Donc résultat, c'est quand même... c'est jamais rock'n'roll, jamais ça nous sort du truc. Je trouve que c'est vraiment tristoun. Après, moi, je trouve que Rami Malek, pour le coup, ok, ses fausses dents, elles sont super gênantes et qu'il est très emmerdé par ce truc-là. Oh, le pauvre, je souffrais pour lui à chaque fois, je me dis d'avoir des problèmes de daft. Enfin bon, vraiment, je m'inquiétais. Non, c'est pas ça, mais tu sais, à force de frotter et tout, je m'inquiétais vraiment pour lui.
Du gingivite, peut-être.
Ah, un truc un peu sale, quoi. Mais voilà, mais je trouve que quand même, il se démerde comme il peut avec ce qu'il a, et c'est vraiment pas si mal. Et honnêtement, alors peut-être que vous, ça vous a pas du tout convaincu, mais moi, par exemple, je suis une très grande fan de Queen, pour le coup, j'adore Queen, et je me suis sentie un peu récompensée sur la fin, un tout petit peu quand même, parce que j'ai l'impression d'avoir subi clairement le film pendant tout le long. Genre, oh, mon Dieu, mais racontez-moi quelque chose. N'essayez pas de me faire juste des petits interstices de quelque chose. Racontez-moi quelque chose. Et à la fin, et comme le film est un film karaoké, c'est-à-dire qu'on lance une chanson et la salle a presque envie de se mettre à chanter parce qu'on connaît la chanson, on est content. Eh bien, j'avais très peur que quand on arrive au Live Aid, pareil, les chansons soient cut et puis on était genre, oh, frustration. Et le fait que la scène dure, qu'on ait vraiment quatre chansons, que ça soit une scène de concert qui vraiment perdure, et Dieu sait que je l'ai vu le concert de Live Aid 85, ça m'a fait du bien, en fait. C'était juste je me suis sentie légèrement récompensée à un moment donné. Enfin, j'ai les chansons en entier. Enfin, je suis contente. Enfin, j'ai un moment où je peux admirer un peu Queen sur scène. 5 minutes, quoi. Ça m'a fait du bien. Après, la séquence en elle-même, elle est tout le temps interrompue parce qu'ils ont besoin de combler. Ils n'avaient pas le courage ni potentiellement les idées pour filmer qu'un concert. Mmh. Ils sont obligés de faire des coupes avec les plans des parents, les gens dans des bars, les gens de faire des coupes partout.
Le public en CGI.
Le public en CGI, bien le CGI. Ça se voit bien. Ils n'ont pas de tronche, les gars. Donc, c'est juste... ça, c'est quand même assez frustrant. Mais... les plans de scène, et je trouve que pour le coup, Rami Malek, il se donne, il y va, et j'y ai cru, parce que tout le reste était tellement pas là, tellement inhabité comme film, que ces 20 dernières minutes, ça doit durer 20 minutes à peu près, ces 20 dernières minutes arrivent comme un véritable soulagement par rapport à tout le reste qui est encore une fois, c'était un très bon terme de la part de Jimmy, c'est Wikipédia, quoi.
Mais c'est un peu quand même aussi un truc de fanboy. Enfin, c'est vraiment
clairement, c'est un truc pour récompenser la fangirl en moi. C'est-à-dire, c'est un truc. Moi, j'étais contente parce que j'entendais les chansons que moi j'écoute depuis que je suis toute petite. Et j'étais ravie de pouvoir scander dans ma tête ou tout bas dans le cinéma pour pas emmerder mes voisins à Hammer to Fall, quoi. J'étais vraiment ravie. Mais
tu l'as pas fait tout bas dans ta tête.
Je l'ai. Si,
non,
si.
Tu l'as crié,
mais
tu
si.
L'as
entendu,
Anaïs, elle
était derrière moi.
Anaïs peut témoigner. Mais donc voilà. Donc c'est clairement. Ça, c'est clairement un truc de fanboy. C'est clairement un truc pour faire plaisir à ceux qui ont enduré pendant tout le film.
C'est ça, ceux qui viennent voir le film parce que, en
parce
gros,
qu'ils
c'est,
aiment,
le, c'est le biopic
parce qu'ils aiment
de
Freddie Mercury.
Freddie Mercury, en l'occurrence. Moi, je suis pas d'accord sur le fait qu'on voit moins Freddie Mercury finalement que le reste du groupe dans l'absolu. Parce
non,
que
non, ils sont, non, on ne voit que lui.
Ouais,
les autres n'existent pas.
Mais c'est par rapport à ce que disait Jimmy. Mais le truc, c'est vrai qu'en fait, il faut aussi dire ça avait été un souci à l'époque où Sacha Baron Cohen devait faire le film. Et à mon avis, il aurait été pour le coup largement meilleur dans le rôle.
Tu as fait ce qui lui ressemble.
Ouais,
il a les dents.
Ouais,
il a pas besoin des fausses dents.
C'est pas très grave parce que moi je suis d'accord avec Perrine. Rami Malek, ça va. Tu vois, c'est juste bon.
Il manque un peu de désinhibition.
Moi je trouve qu'il
est sage.
Il manque surtout de. Enfin, il lui manque au moins 15 kilos de muscles parce que. Ou 20 kilos de muscles, qui est un peu plus casse que ça quand même. Dans la dernière partie de sa vie, si, si. Enfin, dans sa carrière en tout cas.
Il est tout petit de Rami Malek.
Ouais, ça se voit par contre.
Mais quand Sacha Baron Cohen devait faire le film, en fait, quand ils étaient en train de bosser sur le projet, les mecs de Queen en fait lui ont dit ah c'est super mais en fait pourquoi vous faites mourir Freddy à la fin du film, il faut le faire mourir mieux parce qu'après nous il y a toute notre histoire et en fait
mais tu vois on s'en fout
mais
en fait,
non, mais en fait c'est pas vous
c'est un groupe ils ont fait des trucs après mais tout ce qui
se passe leur discographie
c'est juste des choses des archives donc en gros c'est un groupe qui est vraiment
ils ont fait quand même ce fameux concert où il y avait plein de chanteurs différents Axel Rose
ça c'était un truc qui était juste après la mort de Freddie Mercury c'était un peu un truc pas improvisé mais bon
grand moment de gêne aussi sur plein moment.
Ouais, un peu, ouais, ouais aussi. Ouais. Ouais, ouais. Mais bon, mais moi, je trouve que, justement, après, le truc, c'est peut-être aussi le regard que j'ai sur le groupe. Mais effectivement, je trouve déjà qu'on les voit beaucoup trop, les trois
ouais,
autres.
On les voit trop. Ouais.
On voit trop leur perruque, on voit trop leur
trop qu'ils sont gentils. Enfin, c'est quoi ce truc? Justement,
parce qu'ils sont rangés aujourd'hui, ils sont encore vivants. Et donc, par exemple, il y a 18 000 scènes où ils précisent que c'est des hommes de famille, qu'ils sont mariés, que. Ah non, ils sont fidèles, machin. Et tu sens que c'est parce que.
Sauter une groupie.
Voilà, exactement. Parce qu'en fait, c'est Brian May et Roger. Voilà, non, l'autre.
Putain, ça, on ne se souvient pas des noms.
Voilà, exactement.
John Deacon, je crois.
John Deacon.
Et le patron des magiciens de Levallois. C'est infernal, quoi.
Mais non, mais comme ils ont produit le film, ils ont dit non, mais attends, moi, je suis mariée, je veux pas. Enfin, voilà, ça sent en fait que. Et puis, t'as plein de scènes aussi où ils disent mais c'est toi, Roger, qui a écrit cette partie de la chanson. Et puis, moi, j'ai composé ça. Et tu sens vraiment que c'est. En fait, ils ont eu une place beaucoup trop importante dans la production de ce film, quoi. Et du coup, c'est hyper consensuel. C'est, comme tu disais, Perrine, c'est trop sage parce qu'ils osent jamais bousculer un peu. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Sacha Baron Cohen s'est barré, quoi.
On bascule juste Freddie Mercury un tout petit peu. C'est-à-dire que d'un seul coup, nous on est sage, nous on est gentil. Par contre, Freddie, c'était une diva. Oh là là, Freddie, il n'était pas très sympa. Oh, Freddie nous a laissé tomber. Alors que nous, tu vois, jusqu'au bout, eh ben, on était là.
Après qu'il soit mort. Eh ben, quand même.
Non, et puis, je trouve que c'est quand même hyper dommage pour un groupe comme ça qui a quand même énormément de chansons cultes. C'est un film qui met pas du tout la musique au centre, en fait. C'est-à-dire qu'on les voit un tout petit peu en studio, mais vraiment, c'est un montage, quoi. Voilà, ils sont en train de composer Bohemian Rhapsody. Et en fait, mais à aucun moment, on nous montre vraiment ce que la musique représente pour eux, vraiment, quoi. Moi, j'arrêtais pas de penser à Love and Mercy et au fait qu'il y a tellement de scènes de studio dans ce film et qu'on voit vraiment chaque note de Pet Sounds qui a été vraiment retravaillée et retravaillée par Brian Wilson. Et là, on attend ça un peu. Freddie Mercury, c'est un génie. On veut savoir comment il a retravaillé ses chansons pour en faire les monuments qu'elles sont aujourd'hui. Et on n'a jamais ça, en fait. On les voit jamais en studio, quasiment.
Oui, je suis un peu super d'accord sur Love and Mercy parce que j'avais noté de en parler. C'est vrai, pour moi, c'est pas un biopic qui est non plus très réussi, même si toutes les parties des années 60, je les trouve super. Et c'est, je crois que pour moi, c'est le meilleur film, enfin, c'est les meilleures scènes de studio dans un film, quoi. Ouais. C'est qu'il y a la. Parce qu'en fait, en studio, quand on a déjà été en studio, c'est ultra chiant.
C'est
en fait,
très chiant.
Voilà. Ouais. Le problème, c'est que si tu veux arriver à faire un truc qui soit à la fois proche de la réalité et qui passe dans un film sans trop t'emmerder, il faut faire un truc dont on l'avait merci, c'est-à-dire vraiment à la fois ça, c'est vraiment ce qui se passe dans le studio, mais en même temps c'est ultra mise en scène de manière un peu fantaisiste aussi. Et en plus ça aide à expliquer aussi aux gens comment ça se passe et comment on peut faire un morceau comme Good Vibrations ou Les Morceaux de Pet Sounds.
Ça montre l'obsession du musicien, quoi, qui refait jouer les trois notes de violoncelle à la fin de Good Vibrations, mais encore et encore et encore et encore. Et du coup, ça, on le ressent pas du tout dans Bohemian Rhapsody, quoi.
Si, Galiléo, 400
fois.
Galiléo,
400
fois. En plus, c'est dans un passage qui est limite bénil, quoi. C'est genre les plaques du machin tombent, tout le monde s'écroule par terre en rigolant. Mais de toute façon, il n'aurait pas fallu faire un film sur Queen. C'était aurait dû faire un film sur Freddie Mercury.
Complètement. Parce que les trois autres. Il fallait l'anglais, ce film. Il n'a pas d'angle.
C'est même
pas
sur sa famille, on ne comprend pas ce qu'elle fait là. En fait, il y a trois scènes au début et à la fin, voilà, un peu pour boucler la boucle, quoi.
C'est bon, ça y est, son père l'accepte. Je les avais complètement oubliés. Moi, j'étais genre, ah oui, c'est vrai, il était en colère l'autre. J'avais complètement oublié. Enfin, scandale.
Ça va, Stéphane?
Ça va. Ouais, tout ça, c'est vrai. Puis en même temps, je te dis, le film, il est complètement. Enfin, pour moi, c'est. Je crois que je l'ai vu un peu avant vous.
C'est
j'ai vu deux, trois semaines. Donc, c'est ça, c'est que tu l'oublies. Mais moi, je serais incapable de te raconter une scène de Valkyrie. Je serais incapable de te raconter une scène de. Je sais pas, moi, un élève doué. Je me rappelle pas, en fait. Même les scènes où je me dis, ah putain, c'est censé être dérangeant, là. Genre, tu crois qu'il y a un rêve. Je me souviens bien, dans un élève doué, il y avait un rêve dans une chambre à gaz, tu vois. Je sais même plus ce qui se passe, tu vois, c'est des trucs, c'est ça le problème pour moi que j'ai avec Brian Singer. Mais je veux dire, c'est quand il doit faire de la mise en scène à proprement parler qu'en fait il devient limite ridicule. Moi, les scènes par exemple dans X-Men où ils utilisent Quicksilver, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux, mais moi je pense que ça a été vachement travaillé avec les équipes des effets spéciaux en fait pour faire fonctionner le truc en termes de mise en scène, et c'est eux qui ont été force de proposition. Là, c'est pareil, tu regardes le truc, il n'y a pas d'inventivité comme il n'y en a jamais eu en fait pour moi chez Brian Singer en absolu, quoi. Donc encéphalogramme plat, j'arrive même pas à dire que c'est nul. Je dis juste effectivement, si vous êtes fan de Queen, peut-être que la fin ça va vous faire kiffer, ou alors tu vois, oui, il joue bien, ou lui, tu vois, mais c'est pouf, tu vois, c'est pouf. Bryan Singer.
C'est tout à fait acceptable.
C'est acceptable. Ça existe, tu voulais dire quelque chose.
Oui, juste une dernière chose, c'est juste je me demandais quelle était vraiment la part de travail de Dexter Fletcher dessus, quelles sont les scènes qu'il a fait, parce que maintenant, je me pose la question du film sur Elton John qu'il doit faire, en fait.
Rocketman,
donc avec Taron Egerton.
Sur quelqu'un qui n'est pas mort.
Qui n'est pas mort, voilà, et Taron Egerton qui chante. Donc, non, mais voilà, je me demande, voilà, comme c'est Dexter Fletcher qui a la tête de ça, quel est vraiment son rôle et son travail sur Bohemian Rhapsody, parce que je suis inquiète pour Rocketman.
Après, je crois qu'il était un peu réticent même sur ce film, parce qu'en fait, à la base, il devait venir le réaliser, puis il est parti, puis il est revenu quand ils ont viré Bryan Singer. Donc peut-être qu'il est aussi revenu, mais déjà dégoûté de la vie, donc on ne sait pas très bien. Peut-être que Rocketman sera mieux parce qu'il sera un peu plus content d'y être là. Enfin,
techniquement, quand tu débarques en fait sur un film qui est déjà en prod, où t'as déjà un acteur qui a quand même un fonctionnement à lui, tu vois, puisqu'apparemment le clash c'était entre Singer aussi et Malek.
Et les acteurs, tous les acteurs, ça s'est passé très très mal entre Singer et les autres acteurs.
Et le truc, c'est que quand tu débarques là-dedans, en fait, t'es obligé de rentrer aux chausse-pieds en fait dans le truc. Donc je pense que sa marge de manœuvre, elle est extrêmement limitée. Je pense que ça revient à diriger les acteurs, justement, pour le coup, dans ce fonctionnement-là. Et je pense que tu peux pas vraiment enfin, moi, je vois pas comment il pourrait être vraiment à blâmer sur un truc comme ça. Je crois que même que le studio, à un moment donné, a pensé à Ridley Scott, tu vois. Ce qui aurait été drôle, parce qu'en fait, si on savait que Ridley Scott avait re-shooté, parce que c'était, je crois, il devait encore, c'était juste après les re-shoots de son dernier film, là, où ils ont viré Kevin Spacey. T'imagines si, en fait, il avait repris le truc comme ça, et c'est-à-dire qu'en fait, là, on aurait eu un réalisateur qui a quand même une patte visuelle très spécifique, qui aurait dû littéralement se fondre dans le non-style en fait dans le non-style de Bryan Singer, quoi. Donc le truc, c'est que là on aurait pour le coup une vraie preuve. Dexter Fletcher, moi je crois qu'il a fait un film avant d'ailleurs, il me semble, avec Taron
Egerton. Oui, il avait fait un truc avec Hugh Jackman,
voilà. J'ai pas vu ces trucs là, donc ouais, mais bon,
gentil.
J'ai pas l'impression que ce soit un mec en fait dont on puisse reconnaître le style tout de suite encore là maintenant.
Pas encore. Voilà. Ça viendra avec Rocketman, peut-être. On verra, on en parlera. Avant de se quitter, chers amis, on ne boude pas les vieilles traditions de cette émission millénaire, à savoir les recommandations. Comme toujours, vous êtes libre de vous éloigner de l'univers des biopics musicaux. Vous faites comme vous voulez, Jimmy.
Je vais en faire trois, en fait, mais je vais faire
super
vite.
C'est bon. Mais prends ton temps. Prends ton temps. On est entre
le
nous.
Le premier, c'est. En fait, vu que la structure est quasi identique, c'est le roman d'Elvis de John Carpenter. Déjà, c'est un film de John Carpenter que peu de gens connaissent.
C'est un téléfilm.
C'est un téléfilm, effectivement. C'est sorti en 79, qui dure 3 heures.
Donc c'est sa première collaboration avec Kurt Russell.
Tu vas tout faire.
Je vais tout dire à ta
fait.
Place.
Tu connais beaucoup trop John Carpenter.
Il y a même le père de Kurt Russell qui joue le père d'Elvis.
Effectivement. Et est-ce que tu sais que dans un film d'Elvis, il avait le nom de Dr. John Carpenter? Ça, tu savais.
Ah non, ça, je savais pas.
Je te l'apprends, c'est incroyable.
C'est génial.
Enfin voilà, le film dure 3 heures et en fait, c'est à peu près la même construction. C'est-à-dire que c'est au moment de ce qu'on appelle le Six State Comeback chez Elvis, c'est-à-dire le moment où il revient après 8-9 ans d'absence. Et en gros, ça commence. S'il arrive dans l'hôtel, il flippe à cause de ce comeback et il se met à raconter toute son histoire. Et à la fin, on a le comeback. Et voilà, je le trouve vraiment super. Je ne sais pas si on reconnaît vraiment que c'est un Carpenter, mais en tout cas, il y a vraiment une patte assez lourde quand même sur le truc, notamment au niveau du chef-op et tout. Enfin, c'est vraiment la photo est vraiment super chouette. Il y a une scène moi que j'adore au tout début où Elvis et gamin ils courent dans les bois. On dirait un truc qui sort d'un Walt Disney, ça c'est incroyable. Et enfin voilà, bon, après ça dure 3 heures, donc si vous pouvez le choper, regardez-le en petit bout peut-être, parce que c'est quand même assez lourd.
C'est dingue. Dense.
Voilà, sinon il y en a
deux. La
deuxième, alors c'est un mauvais film aussi, mais enfin par rapport à Bohemian Rhapsody, mais à voir quand même, parce que ça c'est un. Seule fois où j'ai vu vraiment un biopic musical où on se fout ouvertement des gens qui sont dedans. C'est pas encore sorti, ça sort normalement début d'année prochaine, mais c'est présenté à Paris au PIF, au Paris International Fantastic Film Festival en décembre. C'est Lords of Chaos de Jonas Åkerlund. C'est donc sur la scène black metal norvégienne et tous les meurtres qu'il y a eu. C'est sur 3-4 ans. Et en fait, lui, Jonas Åkerlund, il était batteur de Bathory, qui était l'un des groupes de la première vague de black metal. Et en fait, il connaît donc très bien le truc. Et c'est la première fois que ces personnages-là, le film est pas terrible. Il est vraiment assez raté, mais c'est la première fois que ces personnages sont vraiment dépeints, je pense, comme ils étaient vraiment, c'est-à-dire en gros des fils à papa un peu paumés.
Un peu débiles.
Et un peu débiles, et pas des archanges du mal, quoi. Et donc c'est assez cool. Moi j'ai bien aimé cet aspect-là du film, même s'il est raté. Et c'est assez rare de voir ça, quoi, de montrer des black metaleux avec leurs parents qui leur offrent des fleurs ou qui les voient dans le garage. Et puis le troisième, c'est juste si vous voulez vraiment lire un truc, une histoire de groupe, il y en a une à lire, c'est celle de Motley Crue. trouve, The Dirt de Neil Strauss. Alors c'est un livre, c'est pas encore un film, enfin, pas encore, parce qu'ils ont essayé beaucoup de fois.
Ils ont vendu les droits, il me semble.
Pour l'instant, c'est vendu à Netflix, mais alors, je ne sais pas si ça s'avère le jour ou pas, parce que c'est inadaptable. Enfin, moi, je trouve.
Pour moi,
c'est le Hamlet de la bio de musicien. Quoi, c'est il y a tout dedans. Il y a des trahisons, de la tragédie, de la comédie, des meurtres, des accidents.
Beaucoup de drogue.
Enfin voilà. Mais c'est surtout une histoire qui est vachement touchante, quoi, je trouve.
Oui.
Ah, c'est pas juste un truc de groupies et de drogue et de gens qui meurent de manière un peu stupide.
Mais il y en a aussi.
Il y en a aussi pas mal.
Anaïs.
Moi j'ai déjà dit tout le bien que je pensais de Love and Mercy.
Tout à fait.
Donc je vais recommander un film qui s'appelle Walk Hard.
Plein de gens y ont pensé, tout le monde en a parlé après Bohemian Rhapsody.
Bah oui, mais parce qu'en fait, c'est exactement le même film que Bohemian Rhapsody, sauf que c'est une parodie. Donc c'est ça qui est génial. Il faut vraiment faire une double soirée, quoi, les mettre l'un après l'autre.
Double programme.
Voilà, c'est avec John C. Reilly qui joue donc une star du rock un peu ridicule, qui a une blessure très profonde au début de sa vie puisqu'il coupe son frère en deux à la machette.
C'est ça.
Et c'est vraiment un traumatisme dont il va avoir du mal à se remettre. Et c'est génial parce que ça suit vraiment la structure hyper classique du biopic musical, et c'est juste une succession de tous les clichés qu'on a dans ces biopics là. C'est super drôle, c'est très très con, mais c'est vraiment hyper drôle. C'est un peu plus court que Bohemian Rhapsody aussi, ça fait que 1h30, donc c'est parfait. Et il y a Paul Rudd dedans qui joue John Lennon. C'est juste une scène, mais c'est vraiment incroyable, quoi. Donc voilà, Walk Hard.
Il y a une scène où il chante enfant avec une voix de vieil homme noir, et
c'est incroyable, c'est extraordinaire. C'est génial.
C'est un grand moment. Stéphane.
En fait, elle m'a piqué Marocco.
Ah, mais
c'est pas. Mais parce que j'arrive un peu à l'arrache, là. Donc, évidemment, j'ai toujours pas de reco. J'ai un reco, moi, tu sais. Mais en fait, non, j'avais déjà fait une reco, en fait, sur Clo-Clo.
Ouais.
Le film sur Claude François, donc je vais pas revenir dessus, si ce n'est juste pour dire que pour le coup, en fait, Jimmy en parlait tout à l'heure très vite, il n'y a pas de film. Moi, je trouve que justement, il y en a un où on montre justement la façon dont l'inspiration peut arriver dans le processus de création d'un artiste. Et c'est dans ce film-là où il y a toute une scène en fait autour de ça, et notamment, enfin, il est autour de la piscine et comment il écrit comme d'habitude, etc., etc. Donc voilà, je refais une reco sur ce film que j'aime beaucoup. Et après, en fait, le truc, c'est qu'il y a un truc qui est quand même assez étonnant. C'est pas vraiment une reco que je vais faire, mais il y a un truc qui est quand même assez étonnant, c'est qu'on parle de cinéma ici, et Queen, en fait, a fait quand même pas mal de BO de films.
Oui.
Et ce qui est assez étonnant, c'est que c'était un groupe de 100 ans, Queen, clairement, mais c'est un groupe aussi qui a dépassé ça, en fait, ce temps-là, en fait. Du coup, c'est assez marrant en fait de se dire que les films sur lesquels ils ont travaillé sont littéralement ringardisés, c'est-à-dire ils étaient clairement dans leur temps à l'époque. Les chansons en soi ont peut-être pas vieilli, mais par contre, Flash Gordon ou
Savior of the Universe,
voilà, et Highlander qui est quand même juste littéralement irregardable aujourd'hui. Tu peux littéralement pas le voir sérieusement.
C'est regardable.
C'est un film que j'ai vu mais 30 fois quand j'étais gosse. Hein, j'adorais ce film, quoi. Et je trouvais ça incroyable. Lambert, c'était le meilleur acteur au monde. Il était génial et tout, tu vois. Et le film, il est regardable. Donc du coup, c'est assez intéressant. C'est juste une façon de dire, voilà, si on rejette un œil sur ces films-là, bon, je pense que les gens connaissent, hein, Highlander et Flash, quoi. C'est finalement pas des très bons testaments pour Queen, alors que justement leurs chansons parlent pour eux encore aujourd'hui, quoi. Voilà, c'était pas une reco, c'était une reco sans reco. Parce que
c'était pas mal, t'as quand même un peu parlé d'Highlander. Ouais. Non, c'était bien.
Bah, il fallait, parce que le film en parle pas.
Bah oui, c'est vrai. Perrine.
Oui, non, moi je suis plus sur. Attendez, parce que je me suis paumée entre temps, j'étais partie sur Highlander dans ma tête. Donc, moi, un film.
C'est ta reco ?
Non,
c'est le chaise musicale de la reco, tu vois.
Non, pas du tout. Non, c'était. Je parlais tout à l'heure que ce que je reproche principalement, en tout cas, à Bohemian Rhapsody, c'est de ne pas être anglais, de ne pas choisir un vrai angle. Et c'est pour ça que j'aime bien un film.
Anglais avec un accent aigu, c'est ça ?
Oui, c'est ça, ouais. Ou anglais, AIS. C'est ça, les deux. C'est que j'ai pensé à un autre film, justement, sur un anglais, c'est Control, sur Ian Curtis, donc sur le groupe John Division, mais, et qui est beaucoup plus, pour le coup, anglais et anglais, sur donc, le personnage de Ian Curtis. On est vraiment beaucoup plus sur lui. On a un angle, un point de vue sur ce bonhomme, et il y a une recherche esthétique de la part d'Anton Corbijn, c'est-à-dire quand même l'idée du film en noir et blanc, avec une vraie recherche déjà sur ce noir et blanc, et il pense en termes de mise en scène, clairement. Enfin, il est plus photographe aussi dans sa manière de voir les choses, donc il y a vraiment une façon d'aborder le film, une façon d'aborder ce personnage qu'est Ian Curtis, d'aborder Joy Division Division à travers Ian Curtis, donc sans jamais tomber dans derrière, essayer de continuer New Order, etc. On reste vraiment dans une période délimitée dans le temps et on n'est pas dans, encore une fois, dans le bullet point. On n'est pas en train de raconter toutes les étapes de Joy Division. Donc je trouve que c'est pour moi, c'est ça, un biopic réussi sur une figure importante de la musique, en l'occurrence ici de Ian Curtis.
Très bien. J'en profite pour rattraper un truc qu'on a oublié dans l'émission spéciale voiture, où on n'a pas parlé dans les meilleures scènes de gens qui chantent en voiture. On n'a pas parlé de la scène de Wayne's World où ils chantent Bohemian Rhapsody. C'était quand même dommage.
Il est mentionné dans le film, parce qu'ils font une blague là-dessus, tu vois. Alors qu'ils auraient très bien pu aller chercher Christophe Lambert pour qu'il joue son rôle de 30 ans avant. Tu vois, ça aurait été formidable avec une moumoute et tout. C'est ça qu'ils auraient dû vraiment faire si vous voulez faire du métal.
Ça aurait été très très bon. Ça manquera ce film. Notre temps est écoulé. Merci à tous les quatre. Merci à Jules à la technique. Merci à l'antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio, pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir. Et puis en attendant, on vous dit à très vite. Et tout de suite, un message de notre partenaire Séance Radio.
J'adore mon boulot.
Vous êtes la crème de l'aristocratie française.
Vous avez compris ce que je vous ai dit?
Oui, cancer du poumon, inopérable.
Next épisode, c'est le nouveau rendez-vous 100% série de Séance Radio avec Charline Roux et son équipe.
On ferait mieux de rebrousser de main, les gars.
J'ai fait du mal. J'ai compromis des missions.
Des policiers français, on peut les acheter, pas les tuer.
Next épisode, le mardi à 19h sur Séance Radio, est disponible sur toutes les applications podcast.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.